Bonjour et bienvenue au podcast Patrimoine Inc., le podcast dédié à la gestion des avoirs des entrepreneurs et travailleurs incorporés. Mon nom est Thomas Godet, comptable professionnel agréé. Bonne écoute. Petite mise en garde, tout ce qui aura été dit dans le podcast ne peut être interprété comme des conseils financiers. Veuillez vous référer à votre conseiller financier, planificateur financier, notaire, avocat, comptable ou fiscaliste. Ce sont ces personnes qui connaissent le mieux votre situation financière. Elles sont les mieux placées pour vous guider d'un point de vue financier. Au menu aujourd'hui, je vous présente l'ordre du jour. Je me sens un peu comme une réunion de conseil d'administration. Bref, on va parler de la genèse du podcast Patrimoine Inc. Ensuite, on va faire une brève description de moi et puis de l'équipe Altitude Conseil Financier. Après ça, on va embarquer dans le sujet du jour qui est l'incorporation, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et finalement, on va répondre à des questions de nos auditeurs. Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de Patrimoine Inc., le podcast consacré à la gestion des avoirs des entrepreneurs et professionnels incorporés du Québec. Mon nom est Thomas Godet, merci d'être des nôtres. J'ai goût d'entrée de jeu de vous faire une petite mise en bouche. Patrimoine Inc., c'est quoi? On peut le décomposer en deux mots. Le premier mot, c'est patrimoine. Donc pour moi, ce que ça veut dire patrimoine, c'est préservation des avoirs au fil des générations. Fait que si je prends un exemple, ce serait que Junior transmet son avoir à Junior Junior, qui lui le retransmet à son tour à Junior Junior Junior. Donc on pèle par en avant le capital et le rendement pour les futures générations. C'est ce que ça veut dire pour moi le mot patrimoine. Puis après ça, vient le mot Inc. pour moi, qui veut dire compagnie. Fait que Inc. vient du diminutif Incorporated, qui indique que c'est une société incorporée. Donc, nécessairement, on va parler de sujets qui intéressent les entrepreneurs et professionnels incorporés. L'objectif du podcast, c'est de créer vraiment une intégration sans faille entre la corpo et le volet personnel. Fait, au niveau corporatif, il y a un paquet de décisions qui impactent votre avoir en général. Je pense à ce que je mets ma voiture dans la corpo ou je la garde au niveau personnel. Est-ce que j'ai accès à l'exonération pour les actions admissibles de petites entreprises? Puis c'est quoi ce type d'action-là? Devrais-je me créer une compagnie de gestion puis pomper dans le fond les liquidités de mon opérante vers la compagnie de gestion pour les investir? Il y a des fonds structurés en catégorie de société, ça existe. Est-ce que ça s'applique à ma situation? Et j'en passe, il y a vraiment un paquet de décisions à prendre. Puis même chose au niveau personnel, là, il y a une panoplie de décisions à prendre en compte. Il y a plein de véhicules fiscaux qui existent, comme le REER pour la retraite, le REE pour l'éducation, le CELI qui est un véhicule, un abri fiscal, le CELIAP qui est pour l'accès à la première propriété. Puis après ça, quel type de produit de placement j'utilise? Puis au-delà de ça, c'est oui, il y a des véhicules fiscaux qui existent, mais au-delà de ça, c'est de penser, est-ce que suis-tu mieux de garder l'argent finalement dans la corpo, dans la coquille? Au lieu de me tirer un salaire, puis après ça, de recotiser à Montréal pour venir annuler une portion de mon salaire. C'est toutes ces questions-là auxquelles on va peut-être avoir une partie des réponses au fil du temps. On va avoir des réponses au fil du temps tout au long des épisodes. Fait que c'est vraiment l'orientation qu'on a décidé de prendre, c'est savoir un peu comment on fait pour gérer ses avoirs lorsqu'on a une compagnie, puis comment intégrer le tout avec le volet personnel. C'est exactement ce que vous allez savoir petit à petit en mettant vos écouteurs sur vos oreilles puis en cliquant sur le podcast Patrimoine Inc. sur votre plateforme préférée. Bon, maintenant, qui est Thomas Godet? C'est qui ce spécimen-là? Moi, en fait, j'ai grandi dans un petit village à Saint-Guillaume. Si vous n'êtes pas de la région du centre du Québec, c'est un petit patelin entre Montréal et Québec. Dans ce temps-là, je me souviens que je m'amusais à compter mes auto Hot Wheels dans le carré de sable. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà la fibre comptable. Si on avait pris, d'après moi, des photos à cet âge-là de moi, là, On aurait sûrement vu mes bas bruns sur la photo. Donc, également à Saint-Guillaume, ben, j'ai cueilli des fraises, des roches et de la moutarde. J'ai vraiment pas toffé longtemps. Puis c'est vraiment des jobs difficiles. Je lève vraiment mon chapeau et casquette à tous ceux qui travaillent dans ce domaine là. C'est vraiment pas un métier facile, c'est très exigeant. Mais je vous parle un peu de ça parce que c'est juste pour vous dire que j'ai gardé mon parler de région, puis vous allez voir, vous allez être servi au niveau des expressions. Vous allez en voir de toutes les couleurs là-dessus. Puis j'ai même un fichier Excel d'expression que je travaille tout le temps dedans pour l'améliorer avec mon ami Anthony que je salue. Et puis, après mon école primaire, on est déménagé à Drummondville. J'ai fait mon cégep à Drummondville. C'est vraiment un super beau cégep en passant. Là, si vous avez l'occasion de passer devant ou de le visiter, là, allez-y, grattez-vous. Je suis resté 2 ans là. J'ai fait sciences humaines avec profil administration. J'ai vraiment adoré mon passage. Puis après ça, la suite logique pour moi, c'était l'Université de Sherbrooke, les 5 à 7, les stages, tout le package deal pour que l'étudiant soit vraiment content et ait du fun. En début de carrière, justement, les stages m'ont permis d'avoir mon premier emploi en cabinet comptable. C'est vraiment pas. C'est vraiment une super belle école, un cabinet comptable. Puis ça permet de connaître les ratios des industries, la rentabilité des secteurs et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment de quoi que je me sers même aujourd'hui. Là. Fait que si vous avez la chance d'aller dans un cabinet comptable, n'hésitez pas. En mai 2021, après la saison des impôts, j'ai fait le saut chez Altitude de conseil financier. Puis depuis ce temps-là, Je regarde vraiment plus en arrière. J'apprécie vraiment l'équipe. On est une équipe vraiment soudée. Puis d'ailleurs, parlons-en d'un peu de l'équipe et d'Altitude Conseil financier. Altitude Conseil financier, c'est un cabinet à dimension humaine qui offre des services de gestion de patrimoine pour les entrepreneurs, professionnels incorporés, professionnels des affaires et de la santé. On est une équipe de 6 personnes. Fait qu'il y a 3 planificateurs financiers, Benoît, Mathieu et François. Il y a 2 adjointes, Martine et Mélanie, qu'on aime beaucoup aussi. Puis il y a moi qui est CPA, qui est représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière. Fait que d'ici 1-2 ans, dans le fond, mon objectif aussi, c'est d'aller chercher mon titre de planificateur financier. Pour vous parler un peu de chiffres, on gère présentement près d'un quart de milliard de dollars. On est super bien content de ça. Puis on essaie de donner le meilleur à nos clients. Là. Donc, au menu, si vous décidez de nous faire confiance, c'est des rencontres annuelles, des rencontres ponctuelles selon vos besoins, des suivis réguliers, des conseils financiers, des corporatifs. Fait que je vous dis tout de suite, les organigrammes corporatifs puis les états financiers, nous autres, ça ne nous fait pas peur. Là. Fait que au plaisir de vous aider ou de vous accompagner dans vos projets financiers. Là. Segment sujet du jour. Bon, maintenant, fini la poutine. Sujet du jour, s'incorporer. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On en a parlé un petit peu tantôt, la définition de s'incorporer égale se créer une entreprise. Donc, on transfère les revenus et dépenses des activités opérationnelles à une personne morale, soit la INC. Ça veut dire que dorénavant, depuis ta date d'incorporation, tu vas gagner tes revenus et payer tes dépenses dans une coquille autre que ta déclaration d'impôt personnel. Par exemple, Jean-Guy qui fait du paysagement puis il décide de se créer une compagnie, on appelle ça Jean-Guy Paysagiste Inc. Ça veut dire que les revenus de paysagement ne vont plus à Jean-Guy, ils vont à partir de maintenant, depuis l'incorporation, ils vont à Jean-Guy Paysagiste Inc. C'est une petite nuance, mais qui est vraiment importante à comprendre. Ou je peux prendre un autre exemple dans le domaine de la santé. Mélanie, qui est médecin de famille dans un GMF, si elle s'incorpore sous le nom Mélanie Richard MD Inc., elle va gagner ses revenus dans sa Inc. Puis là, vous allez me dire, c'est bien beau Thomas ce que tu me dis, mais ça sert à quoi puis ça mange quoi en hiver? À partir du moment où tu es incorporé, selon moi, tu subis plus. Tu n'es plus la victime, c'est vraiment toi le capitaine du navire. C'est-à-dire que tu choisis ta rémunération, que tu te verses un salaire ou un dividende. Tu choisis la nature de ton revenu. Puis tu choisis aussi le montant que tu veux te verser. Là. Avant l'incorporation, tes revenus devaient être rapportés dans ta déclaration d'impôt. C'est quoi qu'après ça que tu as comme recours fiscal? Tu peux déduire tes dépenses qui ont été faites dans le but de générer du revenu, OK, il y a le REER, mais les REER sont, sont capés à 30 780 pour 2023. Si ton entreprise prend de la cession puis est vraiment en mode croissance, tu vas tomber rapidement à sec de droits REER. Puis, mis à part ça, ben c'est quoi que tu as comme recours fiscal? Ben il y a la déduction CELIAP, mais tu peux cotiser jusqu'à 8 000 par année pendant 5 ans. Quoi d'autre? Ben il y a tes dépenses d'entreprise, qui est normal parce que tes dépenses d'entreprise, tu es encouru pour générer le revenu. Fait que je trouve que tu es un peu pogné entre l'arbre et l'écorce quand tu es travailleur autonome non incorporé. Tandis que quand tu as une entreprise, ben, y a un monde de possibilités qui s'ouvre à toi. Puis ces possibilités-là, en fait, sont légales, pardon. C'est juste d'être bien accompagné pour en profiter, que ce soit par un notaire, fiscaliste, comptable, conseiller financier également. Là. Maintenant, si on parle des avantages et inconvénients de l'incorporation, ben. Nécessairement, le premier avantage qui me vient en tête, c'est le loisir de moduler tes revenus. En français, ça veut dire quoi? C'est, par exemple, je suis parent, puis mon conjoint, ma conjointe fait à peu près 100 000 par année, puis moi, je peux décider volontairement de slacker mon salaire cette année pour pouvoir me permettre d'accéder aux allocations familiales. Puis de toute façon, j'avais pas besoin de ce montant-là, fait que je laisse dormir l'argent dans la corpo, puis je me tire un petit peu moins de salaire. Fait que je décide volontairement de me sortir un salaire qui est moins élevé ou un dividende qui est moins élevé parce que je n'ai pas besoin pour mon coût de vie, puis le reste peut fructifier dans la coquille, soit la compagnie. Fait que lorsque tu es une entreprise, ben, tu as une déclaration de revenus de la société qui est vraiment distincte de ta déclaration de revenus du particulier. Fait que tu peux décider de te verser le salaire ou le dividende qui te convient en fin d'année. Selon tes désirs, puis selon ce que ta conjointe ou ton conjoint a comme salaire également. Tandis que lorsque tu es travailleur autonome, ben tes revenus doivent être reportés en totalité dans ta déclaration de revenus personnels. Fait que là, tu es imposé à chaque année selon le revenu que tu as fait cette année. Fait que t'as pas le loisir de décider de ton salaire en fin d'année. Là. Ton revenu est vraiment dicté par la déclaration d'impôt que tu as remplie. Là. Deuxième avantage, ben, il y a la possibilité de reporter l'imposition. Donc, après avoir payé ton impôt corporatif, si tu fais du revenu actif, t'es à 20,5% de taux d'impôt. En fait, le taux d'imposition va varier entre 7,7% et 26,5%. Ça, c'est les données selon l'année fiscale 2022. Puis ça varie en fonction de s'il y a des heures travaillées dans l'entreprise. Fait que s'il y a plus de 5500 heures, le taux est favorable. Et après ça, il y a aussi des critères en fonction du développement durable. Donc, si l'entreprise est polluante, elle va avoir un taux plus élevé. Donc, pour une hypothèse de taux d'impôt à 20,5%, si tu as un profit de 100 000, ben, tu paierais techniquement 20 500 d'impôt. La balance, la différence entre 100 000 et 20 500, qui équivaut à 79 500, ben, on peut la laisser dormir dans la corpo puis faire des petits avec ça. Fait que le résidu, dans le fond, peut rester dans la compagnie Inc. Puis, ce que ça veut dire, en fait, ben, tu pourras faire dormir les sommes, puis t'envoies littéralement ton montant au dortoir, tu fais dormir avec un bon somnifère, puis tu dis, ben, on se voit à la retraite. Fait que la chose vraiment importante à comprendre là-dedans, c'est que c'est vraiment un report, là. Fait qu'on ne sauve pas de l'impôt instantanément, là. C'est juste de dire, ben, l'impôt, on va la reporter dans le fond quand on va retirer les sommes. Là. Fait que c'est vraiment pas une élimination d'impôt. Là. Après ça, troisième avantage, ben, c'est que le particulier et l'entreprise, ils ont des personnalités juridiques distinctes. Fait que le particulier, dans le fond, il a sa personnalité juridique. Puis l'entreprise, ben, c'est une personne morale. Donc, c'est vraiment séparer les deux. Fait que ça, c'est vraiment un avantage pour au niveau des poursuites, mais il faut faire attention, là, c'est pas dans toutes les situations qu'on est protégé. Là. On peut être tenu responsable à titre personnel quand même dans des cas de fraude, par exemple. C'est sûr que si le but premier de se créer une corpo, c'est afin d'éviter la poursuite, parce que la poursuite est déjà entamée, vous comprendrez que l'incorporation ne servira à rien, là. Au niveau des inconvénients, il y en a deux selon moi. Donc, il y a les frais administratifs puis la lourdeur administrative. Donc, au niveau des frais administratifs, le premier inconvénient, Ben, il y a des frais comptables, là, donc nécessairement quand on fait l'incorporation, c'est pas gratuit. Il y a des frais comptables récurrents, donc il y a les états financiers à produire à chaque année, la déclaration fiscale envoyée aussi aux deux paliers de gouvernement à chaque année à produire. Donc ça engendre des frais. Puis au niveau juridique, ben, il y a des frais pour l'incorporation, la création du livre des minutes, de la charte d'action, des statuts constitutifs. Puis il y a aussi des frais qui sont récurrents, notamment concernant la mise à jour du livre des minutes, là. Donc, il y a des résolutions à mettre à jour et plusieurs choses à penser également. Donc, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. On va en parler un petit peu plus tantôt pour savoir si ça vaut la peine de s'incorporer et quelles sortes de critères on va utiliser pour déterminer si on devrait s'incorporer. Deuxième inconvénient, la lourdeur administrative. Donc, si on s'incorpore, probablement qu'il va falloir s'inscrire aux taxes prochainement, là, du moins si on fait des ventes. Et puis, ben, à ce moment-là, ben, il faut produire un rapport pour remettre la TPS TVQ chargée au client et aussi également récolter la TPS TVQ sur les achats. Après ça, en termes de lourdeur administrative, on pense aussi à l'inscription aux charges sociales. Donc, si tu as des employés ou si tu te verses un salaire, ben nécessairement, il faut que tu remettes les déductions à la source aux deux paliers de gouvernement. Donc, il faut remettre la régie des rentes du Québec, le régime en fait québécois d'assurance parentale, l'assurance emploi, le fonds de santé sécurité, la CNESST pour les accidents de travail. Donc, il y a un paquet de charges sociales aussi à remettre au gouvernement, mais il y a différentes plateformes qui existent de traitement de paie pour simplifier le tout aussi, là. Parlez-en à vos comptables, ils sont vraiment au courant des différentes plateformes qui existent pour le traitement de la paie. Après ça, il y a aussi, comme on en parlait tantôt, en termes de lourdeur administrative, il y a la mise à jour du livre des minutes au niveau juridique. Puis il y a la déclaration fiscale aussi à produire. Donc c'est un paquet de facteurs qui alourdit un peu, si on veut, le fardeau au niveau de l'actionnaire. Mais en somme, bien, c'est déterminer si ça vaut vraiment la peine de s'incorporer. Justement, parlons-en des critères. C'est quoi les critères qui indiquent si tu devrais t'incorporer ou non? Puis une phrase que j'ai entendue souvent dans le domaine, c'est tu dois gagner au moins 80 000 $ de revenus pour t'incorporer. Moi, je pense sincèrement c'est de la bullshit. D'ailleurs, j'ai fait un papier là-dessus dans le journal Les Affaires en septembre 2022. Si vous voulez aller voir le papier, c'est à votre guise. Je pense pas que c'est une question de revenus, là. C'est vraiment une question de se poser justement les bonnes questions. C'est comme un arbre de décision, là. Moi, je pense qu'il y a vraiment six questions qui vont faire en sorte de te dire si l'incorporation est nécessaire dans ton cas. La première question, as-tu la capacité à laisser dormir de l'argent dans la corpo? La deuxième, as-tu accès à des avantages fiscaux? La troisième, as-tu des possibilités de poursuite dans ton domaine? La quatrième, c'est quoi la date de péremption de ta corporation? La cinquième, est-ce que tu te charges des créanciers? La sixième, et non la moindre, est-ce que c'est une demande de tes partenaires de t'incorporer? Décortiquons ensemble le tout. Donc, si je commence par la première question, ben, as-tu la capacité à laisser dormir de l'argent dans la corpo? Ce qu'on veut dire par là, ben, es-tu en mesure d'épargner beaucoup par année, puis plus que ton coût de vie? Fait que le but, c'est vraiment de laisser dormir de l'argent dans la corpo, puis faire des petits dans la société. Faut vraiment se créer un fossé entre les revenus générés dans la corpo versus le coût de vie. Fait que par exemple, si vous faites 200 000 par année, puis vous avez juste besoin de 50 000 pour vivre, ben, il y a comme un fossé qui se crée entre vos revenus puis votre coût de vie qui fait en sorte qu'il y a possibilité d'avoir un potentiel de placement dans la compagnie ou d'investissement dans vos propres activités d'exploitation. La deuxième question à se poser, c'est as-tu accès à des avantages fiscaux? Avez-vous accès à des mesures socio-fiscales à titre personnel qui t'enligneraient vers gagner un plus faible revenu si on veut? Fait que, de toute façon, quand tu as une corporation, c'est toi qui décides de ton revenu. Fait que, t'sais, tu peux décider volontairement de te déclarer 100, au lieu de déclarer 100 000, ben, tu peux te déclarer 40 000 si tu veux, puis collecter des allocations familiales si tu es un parent. ou collecter le crédit de solidarité ou le crédit de TPS TVQ si tu es une personne seule, par exemple. La troisième question à se poser, c'est y a-t-il des possibilités de poursuite dans ton domaine? Fait que les biens ou services que tu vends, ils peuvent-tu faire l'objet d'une poursuite? Puis il y a des domaines auxquels je pense qui sont quand même relativement risqués. Là. Je pense à la construction. C'est des domaines quand même très risqués, puis où les poursuites viennent rapidement. Fait que peut-être que vous auriez intérêt à dissocier vos activités professionnelles de votre situation personnelle, mais il faut toujours valider avec un notaire ou un avocat si c'est pertinent de s'incorporer à ce moment-là. Là. C'est pas un comptable qui va vous donner des conseils là-dessus. Le quatrième critère, ben, c'est quoi ta date de préemption de ta corpo? Ce que je veux dire par là, ben, combien de temps tu veux garder ta corporation ou ta compagnie? Si tu me dis que tu veux le garder jusqu'au 28 janvier 2024, ben, ça sert à rien de s'incorporer. Là. Fait que vous voulez exercer vos activités pendant combien de temps? Si c'est à court terme, ben, ça sert à quoi de s'incorporer, payer des frais comptables et juridiques pour exercer ses activités pendant 1-2 ans? Les frais d'incorporation vont venir gruger votre avantage fiscal à court terme, là, c'est sûr. Après ça, ben, le cinquième critère, tu cherches-tu des créanciers? Puis, as-tu besoin de financement, autrement dit, pour tes activités? Ben, si oui, l'obtention d'un financement habituellement est plus facile pour une entreprise que pour un particulier. L'entreprise a un pouvoir d'emprunt plus élevé. Certaines subventions aussi sont offertes au Inc. Là, fait que ça vient vraiment faciliter les choses au niveau de la recherche de sous. Donc, il faudrait valider aussi avec un banquier à ce moment-là. Là. La sixième question à se poser, c'est la demande d'incorporation provient-elle de votre partenaire? Avez-vous besoin de vous incorporer pour offrir vos services? Dans certains cas, ben, il y a des fournisseurs ou des clients qui requièrent vraiment que le partenaire d'affaires soit incorporé. Ça ajoute aussi un volet plus professionnel lorsqu'on est incorporé là, aux yeux des partenaires. Segment. Question des auditeurs et cas réels. La première question nous vient de Guillaume qui se demande en fait c'est quoi les étapes de l'incorporation? Fait que pouvez-vous nous dire en détail là, comment on fait pour s'incorporer? D'abord, pour répondre à cette question-là, j'ai eu besoin de l'aide d'une avocate, Joëlle Saint-Germain. Merci d'avoir pris le temps de m'aider pour répondre à cette question-là. C'est sûr que lorsqu'un client a pris la décision de s'incorporer, d'abord, c'est rarement la décision du client. Là. Souvent, il est accompagné par un fiscaliste ou un comptable qui lui a recommandé de s'incorporer. Ben, il y a comme 4 grandes étapes pour s'incorporer. Fait qu'il y a la première étape qui est la détermination d'un nom. Fait que vous avez 2 choix dans ce cas-ci. Vous pouvez avoir une désignation qu'on appelle numérique, c'est-à-dire, par exemple, 9144-2103 Québec Inc. Ou vous pouvez avoir une désignation sociale. Par exemple, si vous avez une opérante, les installations électriques Godet Inc. Dans ce cas-ci. Ou bien, si vous avez une gestion, ben, vous pouvez vous appeler gestion Thomas Godet Inc. Par exemple. Fait que vous avez vraiment 2 choix à ce niveau-là. Fait que ça, c'est pour l'étape 1. Après ça, ben, l'étape 2, dans le fond, là, c'est la préparation des statuts constitutifs. Fait que les statuts constitutifs, en fait, c'est les informations fondamentales à propos de la société. Fait que c'est vraiment l'ADN même de la société. Fait que là-dedans, ce qu'on retrouve, c'est le nom de la société. Après ça, bien, il y a le nom des adresses de chacun des fondateurs. Il y a les limites imposées au capital action, la valeur nominale des actions, les catégories d'actions aussi, les droits, les restrictions de chaque catégorie. Également, il y a des restrictions au niveau des transferts des titres ou des actions, par exemple. Le nombre fixe des administrateurs ou le nombre minimal ou maximal d'administrateurs qu'ils peuvent avoir dans la société. Les limites aussi imposées à ces activités. Donc, il y a une panoplie d'informations contenues dans les statuts constitutifs, mais c'est vraiment la fondation même de la société. Pour ce qui est de l'étape 3, cette étape consiste à déposer la demande d'incorporation au REC. Le REC, c'est quoi? C'est un registraire des entreprises du Québec. Sachez qu'il est possible de s'incorporer au niveau fédéral, mais pour les besoins de la cause, ici, on va parler plus au niveau provincial parce que la majorité des entreprises du Québec sont incorporées sous la charte provinciale. Donc, ça consiste à quoi cette étape-là? En fait, il faut envoyer la demande d'incorporation sur le site en ligne du REC, du Registraire des entreprises du Québec. Puis, qu'est-ce qu'il faut en se mettre dans cette demande-là? Ben, il y a les statuts constitutifs. Après ça, ben, il y a la liste des administrateurs de la société et l'adresse du siège social de la société. Et puis après ça, ben, il faut payer les frais de traitement de la demande. Puis une fois que ces étapes-là auront été faites, ben, le registraire va traiter la demande et mettre ensuite un certificat de constitution dans les heures qui suivent. Fait que c'est vraiment rapide. Puis après ça, ben, la société existe à partir de ce moment-là. Au niveau de l'immatriculation, ben, le registraire des entreprises du Québec va aussi immatriculer la société en même temps qu'il constitue la société. Fait qu'il fait une pierre deux coups. Puis d'où la détermination, dans le fond, d'un NEC. Le NEC, c'est quoi? C'est le numéro d'entreprise du Québec qui sera attribué à la société, qui figurera également sur le certificat de constitution. La quatrième étape, c'est l'organisation du livre des minutes de la société. Puis je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un livre des minutes, mais c'est vraiment une grosse brique. Ça doit peser au moins 5-10 livres certains, là. Ce livre-là, dans le fond, ça recense toutes les informations fondamentales sur la société. Fait qu'entre autres, on y retrouve les statuts, donc le certificat de constitution de la société. Il y a aussi les règlements internes de la compagnie. Il y a aussi les procès-verbaux des assemblées des administrateurs et les assemblées des actionnaires. Fait que dans le jargon comptable, on appelle ça les PV, là, mais ce que en fait, c'est vraiment toutes les informations qui ont été divulguées lors de ces dites assemblées-là. Après ça, il y a le registre des administrateurs, des dirigeants, des actionnaires avec leur adresse, etc. Il y a aussi le registre des valeurs mobilières, donc des actions. Ça indique quel actionnaire détient quelle action, puis la valeur qui est attribuée aussi à chacune des actions. Et puis, il y a les certificats d'action pour finir. Donc, ça répond pas mal à la question sur les étapes de l'incorporation. La deuxième question nous vient de Olivier. Il se demande, quelles sont les professions qui peuvent s'incorporer? Excellente question, Olivier. Pour répondre à cette question-là, j'ai encore eu besoin d'un cabinet d'avocats. Donc, cette fois-ci, c'est Bernier Fournier Avocats, situé à Drummondville, qui m'a aidé pour répondre à cette question-là. Donc, si on y va par strate, puis je ne vais pas toutes les énumérer, vous pouvez aller voir l'article publié par Bernier Fournier qui sera visible dans la description du podcast. Mais au niveau des strates, là, si on y va, on commence par le professionnel des affaires. Il y a les comptables agréés qui peuvent s'incorporer, les avocats et les notaires naturellement. Au niveau de la santé, il y a les médecins, les optométrices, les dentistes, les pharmaciens, les denturologistes, les médecins vétérinaires également et les physiothérapeutes qui peuvent s'incorporer. Puis au niveau des professions techniques, ben, il y a les évaluateurs agréés, pardon, les architectes, les arpenteurs géomètres. Puis ce qui m'a fasciné aussi, j'ai eu droit à quelques surprises, ou du moins je ne m'attendais pas à voir ces professions-là dans la liste. Mais les professions qui peuvent s'incorporer, qui sont très surprenantes, que j'ai trouvées, ben, il y a les géologues, les conseillers d'orientation, les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux depuis mai 2021, ils peuvent s'incorporer également. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Patrimoine. Si vous avez des commentaires, suggestions, questions, n'hésitez pas à écrire au courriel dans la description de l'épisode. Ici Thomas Godet, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. À bientôt!